Me presento, yo me llamo Zaira Arahuete Toribio, soy antropóloga social.
Trabajo
en estos momentos en la Universidad de Ginebra como investigadora postdoctoral. Y mis estudios de antropología los hice en Londres entre el 2011, entre el 2010 y el 2015. Y anteriormente también hice mi máster de antropología allí. Y durante mi doctorado me centré sobre todo en la investigación del fenómeno de la exhumación de fosas comunes de la guerra civil y el franquismo en la región de Extremadura. Entonces, de esto es de lo que he venido a hablar hoy. Pero si bien mi investigación se ha centrado sobre todo en la región de Extremadura, lo que quería hacer hoy
sur la
era sobre todo llevar por un recorrido sobre el tratamiento de estos cuerpos a lo largo de la historia para que así
poder
tener un contexto sobre
un contexto
lo que ha sucedido en relación tanto a los restos humanos que tienen que ver con los ejecutados con la parte de aquellos que eran afines a la ideología franquista, como también
de los colectivos de izquierda, aussi, que fueron
también asesinados
de
por los grupos franquistas de la mayor medida y continúan hoy. La guerra que se genera a través del golpe de Estado generará alrededor de 167.000 muertos combatientes en los frentes de guerra. Y a su vez, por otra parte, se da también esta represión irregular de la que estoy hablando, a través de la cual se pierde, hay una cantidad de pérdidas de 55.000 civiles por la parte de aquellos grupos sublevados o de aquellos que pertenecían a los grupos sublevados y que murieron en ejecuciones extrajudiciales por parte de colectivos republicanos. Y en contraposición, alrededor de 130.000 personas no combatientes serán asesinadas en la retaguardia franquista.
Dans les bases arrière
a esta cifra hay que unirle las 20.000 personas ejecutadas las 20.000 ejecuciones que tienen lugar después de la guerra y a consecuencia de esta represión irregular que se continúa dando, sobre todo, esto es algo muy documentado en el sur de España hasta principios de 1950.
Y beaucoup de documentación sobre el sujeto.
Además, para entender las dimensiones de la represión franquista, a esta cifra había que añadirle toda la represión, todos los cientos de miles de muertos que genera la represión por parte de la justicia militar que se instaura en los territorios a partir de 1937,
a partir de 1937, en los territorios ocupados.
Que empiezan a dar a través de tribunales militares, tribunales de cuentas y otros organismos militares que se encargarán de hacer los procesos sumarísimos que tendrán lugar desde mediados del conflicto. Más de 500.000 personas además se exiliarán y otros cientos de miles pasarán por campos de concentración, por prisiones ad hoc y por prisiones
ad hoc, dans des camps de concentración
que continuarán durante toda la dictadura y por batallones disciplinarios.
Et aussi, des camps de concentración.
Hay que aclarar que las estimaciones de las que yo he trabajado en Extremadura y de las que voy a hablar dans la région hoy, podemos continuar hablando en el debate, ¿no? Sobre todo en relación a la experiencia que yo he tenido con los colectivos que se dedican a exhumar los restos humanos de estas fosas, tienen que ver con las ejecuciones extrajudiciales de aquellos colectivos de izquierda que fueron asesinados por los grupos franquistas. O sea, con las
130.000 personas que continúan hoy todavía enterradas.
Mi investigación nace del interés, por entender los procesos de memoria y los procesos de conocimiento que se dan en el seno de estas exhumaciones, ¿no? Y por otra parte también, por el interés comprender el impacto que estas exhumaciones están teniendo en la sociedad española actual, sobre todo en el contexto de Extremadura, que es la región donde vivo y la que es la región que yo conozco, donde yo vivo.
Así, entre los años 2011 y 2012, me voy a desarrollar trabajo de j'ai fait du travail de terrain pendant 18 mois avec des collectifs de la mémoire historique d'Extrémadure
et je m'intéresse aussi de suivre les différentes campagnes d'exhumation et j'ai travaillé de forme conjointe dans les fosses en dehors et en dedans
et on pourra en parler après si vous voulez.
J'ai travaillé avec les équipes techniques, avec les familles, avec les historiens juegan un papel fundamental
qui ont un rôle fondamental dans ces campagnes d'exhumation
et avec les
représentants politiques qui ont voulu s'impliquer au niveau local, dans les zones rurales, parce que ces exhumations sont très liées à des zones rurales.
Pero antes de describir todo esto, avant d'aborder
tout cela, j'aimerais vous amener sur ce parcours, un parcours historique, parce qu'il y a une grande souffrance dans ces parcours d'exhumation. Et il faut comprendre aussi les demandes de justice et réparation qui ont été soulevées par ces mouvements de mémoire historique. Il s'agit d'un mouvement civil. Il faut le comprendre, non seulement d'un point de vue historique, mais aussi d'un point de vue transnational. Il faut comprendre ce qui s'est passé, non seulement avant, mais ce qui s'est passé dans d'autres lieux dans le monde, qui ont influencé ce qui s'est passé en Espagne.
On pourrait dire que
ces corps ont été affectés par quatre étapes différentes.
D'un côté, par les politiques de la mémoire
du régime franquiste.
Après, par les accords politiques
qui se sont signés après la mort des dictateurs et dans la transition démocratique. Troisième lieu,
profondamente afectado obviamente también por el surgimiento del movimiento de la memoria histórica que
la creación du mouvement de la mémoire historique qui rend public ces questions
et como cuarta categoría que os he querido también ofrecer está también condicionado por la posterior ausencia del Estado tanto del Estado como de la ley que hemos venido observando en los últimos 20 años en relación a las
dernières années pour ce qui est de l'exhumation et puis aussi du contexte de la politique nationale de l'État.
Entonces, para comenzar, ¿no? Ese recorrido histórico desde el final de la guerra.
A la fin de la guerra.
El final de la guerra se caracterizó sobre todo por la conmemoración reiterada
una conmemoración y la celebración de la victoria,
¿no? Del nuevo régimen franquista a través del recuerdo de las muertes, ¿no? De aquellos que perdieron la vida en el bando sublevado. Entonces,
un de los actos de conmemoración le gouvernement de la Deuxième République. Ces actes de commémoration avaient le but de célébrer ce sacrifice
qui a été
pris comme la nouvelle idéologie du régime, c'est-à-dire l'idéologie nationale catholique. Et ce qui est intéressant, c'est que cette idéologie nationale catholique a réuni des intérêts très différents. D'un côté, les intérêts
des collectifs d'extrême
droite, la Falange, qui est devenue après le Parti du National, le Parti 39, avec un désir d'une Espagne totalitaire. Et de l'autre côté,
il y aura
les souhaits de l'Église, c'est-à-dire un projet différent de la nation.
Et il faut dire que face à tout ça,
il y avait le désir de Franco. En tout cas, tous ces souhaits, tous ces désirs étaient un peu les souhaits de Franco, que Franco décide à la fin, comme manière de commémoration et de donner une signification à cette idéologie.
Cette idéologie a été marquée profondément par une vision d'une république
de ceux qui ont perdu la guerre comme une anti-Espagne. Et cela a marqué l'imaginaire social et qui a été travaillé, retravaillé pendant 40 ans en Espagne.
Como ha documentado el antropólogo Francisco Ferrandi,
le premier cycle d'exhumation s'est fait après la guerre, en 1939, selon l'ordre du gouvernement central. On établit un nouveau protocole pour exhumer les corps de ces restes des morts pour Dieu et pour l'Espagne. Donc un protocole défini pour exhumer ces restes humains et qui doit être présent pour les exhumer et quels sont les restes qu'il faut prendre ou pas. Par exemple, il peut y avoir des fosses où il y a des restes différents, mélangés. Il peut y avoir des documentations d'archives qui disent que c'est le juge qui assiste à l'exhumation et qui dit on va exhumer ces restes-là, on ne va pas toucher ces restes-là, etc. C'est un mécanisme qui a été mis en place pour l'exhumation et pour rendre ces restes à la famille. Je suis allée à Valle de los Caídos. Mais je suis allée trop loin.
Une autre construction qui a été liée à cette récupération
des morts, des cadavres par le régime franquiste, c'est tous les monuments qui ont été choisis. Parmi ces monuments, les croix pour les morts, si vous avez été en Espagne, vous savez qu'il y a une croix pour les morts dans chaque ville. À Badajoz, par exemple, là, vous voyez cette image, cette croix pour les morts n'est pas seulement la manière dont on veut célébrer le régime, mais c'est aussi une intention qui est derrière cette croix, c'est-à-dire commémorer tous ces morts qui n'ont pas été trouvés, qui n'ont pas été retrouvés.
Ce processus d'exhumation,
même s'il n'a pas été terminé, il est quelque part pris en charge par ces croix qui représentent les morts qui n'ont pas été trouvés. Après, à l'origine, je ne sais pas, vous avez peut-être entendu déjà parler de ce monument, le Valle de los Caídos, qui a été très présent dans la presse pendant ces dernières années.
Le Valle de los Caídos,
la vallée des morts, a été réalisé par un décret de loi de Franco. C'est les mots de Franco, du décret. On veut construire un monument qui peut rendre justice à la souffrance des martyrs. Donc on voit déjà là, dans cette phrase, le langage qui est utilisé pour pouvoir défendre ce monument, un langage de défense, de gloire, d'opposition, qui laisse très peu de place pour d'autres narrations, comme par exemple la narration de ceux qui sont morts et qui ont perdu la guerre. Donc, ceux qui ont perdu la guerre doivent célébrer dans le privé.
Et
c'est très difficile. Ça a été très difficile de pouvoir articuler une narration à l'intérieur des familles, avec une espèce de autocensure qui s'est développée, parce qu'il y avait une espèce de peur d'exprimer cette histoire passée pour les familles de gauche. Le monument de Valle de los Caídos
est une construction
intéressante.
Ce décret est de 1940
et le monument a été terminé en 1959, c'est-à-dire 19 ans après. Dans le décret, on parle de ce mouvement glorieux, de cette croisée des martyrs, et en 1959, ce discours a évolué, il a changé par rapport à ce monument.
Lorsqu'on
fait l'inauguration, sous la recommandation de l'Église, on parle d'une réconciliation.
Monument
de réconciliation. Non pas parce que c'est dans l'intérêt de la dictature, mais c'est parce que c'est vu la nouvelle ouverture de l'Espagne avec l'arrivée des bases américaines en 1956, ce type de discours de réconciliation constituait une manière de, disons, laver un peu le visage, laver la mémoire. Selon une étude récente, plus de 33 000 corps des morts pour Dieu et pour l'Espagne ont été déplacés de différents points de toute l'Espagne vers le monument de Valle de los Caídos.
ce qui est
dur, amer pour les morts, pour les familles qui ont perdu la guerre, c'est que ces corps, en fait, appartenaient aux ceux qui avaient perdu la guerre, qui avaient été assassinés par le régime franquiste. Et en plus, ce monument avait été construit par des esclaves de la République.
Donc, cela a créé beaucoup de controverses pendant ces dernières années parce que les familles ont essayé de récupérer ces membres de la famille qui ont été déplacés sans le consentement des familles dans ce monument. Et qui aujourd'hui, encore aujourd'hui, ne peuvent pas récupérer ces corps. Bon, on pourra parler après parce qu'il y a même eu un ordre judiciaire, qui une loi donc, qui n'a pas été respectée à propos de cela.
Moviéndonos o yendo hacia la época de la transición, el devenir de estos cuerpos,
dans l'époque de la transition, il y a eu ces corps qui restent dans les forces communes et qui sont des collectifs de gauche, sont marqués par l'oubli et par le silence institutionnel qui a été instauré dans la période de la transition démocratique. Après la mort en 1935 du dictateur, il y a eu de nouveaux pactes politiques au niveau national et entre les partis politiques qui ont articulé ce processus de transition. Cela veut dire
que ces pactes créent un espace politique
nouveau pour la gauche qui n'existait pas auparavant, mais en même temps, bon, c'était des partis qui étaient dans des mouvements qui étaient dans la clandestinité, mais il y a d'autres conséquences sur la manière dont on raconte le passé.
Ces pactes, d'un côté, garantissent
une présence de la gauche, mais une présence aussi, confirme aussi la présence du régime franquiste dans l'État.
En 1977,
il y a une loi d'amnistie qui donne la liberté aux prisonniers politiques qui étaient encore dans les prisons. Alors, c'est vrai qu'il y a différentes amnisties depuis 1969 jusqu'à 1977. Alors, il y a 1976, il en reste très peu. Après, il y a les prisonniers communs qui n'ont jamais été amnistie. Et là, c'est une question très problématique. Mais je ne vais pas m'arrêter là.
D'un autre côté, l'amnistie
ne punit pas du tout les délits franquistes. Et il y a une impossibilité de pouvoir juger les responsables de ces délits. Une des thèses qui ont été défendues par les politologues, Paloma Lila par exemple, qui est une référence, pendant les dernières années, c'est que cette transition a été marquée par un pacte de l'oubli, un pacte du silence, par lequel les différents partis politiques ont essayé de regarder vers l'avenir et laisser derrière le passé. Ça veut dire que cette idée du passé de la guerre ne peut pas être utilisée comme outil politique au niveau national. En tout cas, c'était un peu l'intention.
Donc, ce genre de pacte
favorise l'oubli plutôt que la mémoire et le silence qui freine la production de connaissances sur les crimes qui ont été commis. Et cela est différent par rapport aux transitions qui ont été réalisées dans d'autres lieux.
Il y a eu des politiques de réparation économique qui ont été offertes aux victimes de la guerre civile en général.
Par exemple, aux veuves, aux mutilés de guerre. Mais il n'y a pas eu une reconnaissance aux victimes de la violence franquiste. Il
n'y
a pas eu de politique publique d'exhumation. Il n'y a pas eu des archives pour connaître le lieu où les victimes étaient enterrées. Il n'y a pas eu la possibilité de promouvoir l'histoire ou la recherche sur cette période de répression. Il n'y a pas eu de forum pour pouvoir recevoir les témoins des victimes. Les témoignages des victimes. Il n'y a pas eu de politique de mémoire qui soit publique, qui permette de marquer une vision d'État
sobre el pasado de la guerra.
Sobre el pasado de la guerra.
Sin embargo, a pesar de... Ahora sí, voy ahí. Sin embargo, a pesar de la indiferencia política a nivel nacional, sí que vemos
malgré les différences
que
nacional,
sigue habiendo movimientos de búsqueda de restos humanos a nivel
local.
O de los cadáveres de aquellos que
perdieron
la vida.
De cadáveres que étaient
victimes. Las comunidades autónomas de Extremadura y La Rioja y Navarra son
comunidades autónomas
muy interesantes en el sentido de que en estas regiones sí que se da un movimiento civil.
Il y a eu un mouvement civil.
No es un movimiento civil organizado, son movimientos puntuales, son grupos puntuales que deciden organizarse en sus pueblos porque saben dónde están las cosas,
parce que ils savent où se trouvent les restes humains.
Il faut dire, entre parenthèses, que la manière de faire ces exhumations
a été réalisée par la détention des personnes suspectes.
Ces gens étaient
fusillés directement dans leur maison. On les prenait de leur maison, ils étaient amenés dans certains endroits et on les fusillait directement. Ou bien passés en prison, ils étaient pris en prison pendant quelques jours, après on les fusillait.
Ça veut dire
on les prenait de chez eux.
Paisajes del terror, ¿no?
C'est dans ce qu'on a appelé les paysages de terreur.
Tiene lugar, estas sacas tienen lugar, ces
enlèvements se sont réalisés dans
pueblos,
la périphérie des villages ou dans les villages d'à côté, ou bien dans la campagne.
Et
toujours, disons, en dehors du village ou bien près du cimetière.
Et
c'est les lieux où on a identifié pendant les dernières années ces restes par des méthodologies scientifiques qui ont été utilisées pour les excavations. Et c'est comme ça que les voisins, disons, les locaux, savaient que là-bas, il y avait des fosses, dans ces lieux, il y avait des fosses, et c'est comme ça qu'ils ont retrouvé les restes.
Vous voyez ici
une photo d'un village,
de
Valle de la Serena, dans la région de Badajoz,
en 1978,
il y a eu les exhumations, et il y a les villageois qui ont réalisé eux-mêmes l'exhumation et qui sont prêts pour emmener les restes au cimetière.
Ce qui est intéressant dans ces interventions,
c'est qu'en fait,
on
voit comment ces interventions se sont réalisées, qui les a réalisées, et ces interventions casse l'idée du consensus d'État.
Il y a
des collectifs qui se sont organisés, auto-organisés au niveau local, même s'il n'y a pas une répercussion au niveau national. Il y a des municipalités et des partis politiques qui soutiennent ce genre d'exhumation au niveau local, qui essaient de la promouvoir d'un point de vue logistique ou par un soutien.
Entonces, es curioso porque, por ejemplo, en Extremadura
hay casos documentados,
por ejemplo, en Montijo o en el Valle de la Serena, donde, por ejemplo, las exhumaciones tenían el apoyo del Partido Comunista,
ont été soutenues par le Parti Communiste local
y del Partido Socialista.
Ou par le Parti Socialista local.
En
Extremadura, le Parti Socialista a beaucoup participé jusqu'aux années 90 dans ces exhumations.
Et dans la Rioja et Navarra,
il y a eu même un article récent sur la question.
De un grupo de curas,
il y a eu un groupe de curés, de prêtres, qui se sont organisés pour aider les familles à trouver les restes humains. Donc c'est intéressant de voir le genre de relations qui se sont créées pour cette organisation qui était difficile, qui a été réalisée en réseau local.
Este tipo de intervenciones sí que se ralentiza en 1981 con el intento de golpe de Estado que tiene lugar en el 23F, pero se continúan dando de manera dispersa entre los 80 y los 90. Pero no será hasta el año 2000 cuando se realiza la primera exhumación que realmente tendrá una repercusión mediática como la que hemos visto en los últimos años, ¿no?
Entonces,
en la historia de las exhumaciones contemporáneas, comienza en el año 2000 con la historia de Emilio Silva, que es un periodista
Emilio Silva, un journaliste
qui a commencé à vouloir écrire un roman
sur la répression dans son village et sur la mort de son grand-père qui a été exécuté dans un village, dans son village de Castilla y León. L'idée, c'était de pouvoir faire des recherches sur cette histoire. Alors, Emilio Silva va à ce village de Castilla y León, commence à faire des recherches, demander aux voisins, trouve un membre de sa famille, un ancien militant communiste, qui l'aide à créer ces réseaux avec les villageois pour pouvoir en savoir plus sur ce qui s'était passé dans cette localité. Et grâce à cette recherche, ils ont réussi à trouver la fosse commune où se trouve le corps de son grand-père. Emilio Silva trouve cette fosse et quelques jours plus tard, vu qu'il était journaliste, il décide d'écrire un article
qui s'appelle «
Mon grand-père était aussi un disparu ».
Et lorsque Emilio a écrit l'article,
cela,
bon, tout d'abord,
Emilio écrit cet article pour pouvoir attirer l'attention des autres familles qui se trouvent là-bas, enterré avec son grand-père. Il y a 12 hommes qui sont enterrés avec son grand-père. Et on ne sait pas qui c'est, les membres de la famille de ces morts.
Donc,
l'article, à part attirer l'attention de cette famille, a aussi un autre effet. Lorsqu'il est publié, il y a des archéologues et des anthropologues qui lisent cet article et qui réagissent. Parce que ce que dit Emilio dans cet article, ce qu'il exprime, c'est qu'il a l'intention d'exhumer les corps de cette fosse.
Alors, ce groupe d'archéologues et d'anthropologues
qui se trouvent au Pays Basque
le contacte immédiatement et lui demande de participer à cette exhumation
et de forme volontaire. Alors c'est là qu'il y a une première exhumation avec des moyens scientifiques, avec les archéologues, les anthropologues, comme cela a été fait avant ou même à l'international. Et c'est là que nous voyons la première influence, disons la première connexion avec d'autres processus qui se réalisent dans d'autres pays au niveau mondial. Cette équipe forensique utilise une méthodologie forensique justement pour ne pas perdre les preuves qui peuvent être utilisées pour, par exemple, un procès judiciaire.
Esta exhumación tiene lugar
cette
y
Emilio Silva,
que es el abuelo de Emilio Silva,
será el primer identificado et ça sera le premier à être identifié par une identification génétique de DNA. C'est la première fois qu'il y a une identification par l'ADN. Et c'est très important parce que ça marque une différence par rapport à ce qui s'était fait auparavant.
Esto es en el año
2000.
Yo creo que la identificación se realiza en
2002. A été réalisée en 2002.
Por otra parte,
d'un autre côté,
el hecho de que Emilio llame su o titule su artículo mi abuelo también fue un
de
desaparecido,
c'est mon oncle, mon grand-père était un disparu. Cela nous fait parler, évoquer d'autres choses qui passent à l'international, dans d'autres sphères publiques et internationales, après des conflits.
Entonces, al utilizar la categoría
en utilisant l'idée de disparu,
Emilio está refiriéndose directamente o haciendo referencia, directa o indirecta, según como lo queramos mirar, al fenómeno de las desapariciones forzadas en el Cono Sur latinoamericano.
Y más concretamente
al fenómeno del detenido desaparecido de Argentina, ¿no? En el contexto argentino,
y que surge
a raíz de la represión que tiene lugar por las juntas militares a finales de los 70 y principios de los 80. Y también a la vez está haciendo referencia, ¿no? Al concepto de desaparecido que las mismas madres de la Plaza de Mayo
de la place de mai, concept qui est utilisé pour pouvoir reconnaître les morts du mouvement de la Madre de la Plaza de Mayo, pour pouvoir soutenir les luttes contre l'impunité de ces criminels des années 80 en Argentine.
Donc, il est intéressant de voir comment cette action d'Emilio Silva
est reliée au processus transnational et son discours évoque aussi
de intenciones o de deseos, d'autres intentions, que ver con esta d'autres idea souhaits de una nueva justicia, qui ont à voir avec une nouvelle justice, de nouveaux droits
par rapport à l'idée de la, des Entonces, droits humains au niveau international.
Por otra parte, ¿no? Las palabras de Emilio les dentro de ese artículo también evocan, article, por ejemplo, el desarrollo de una nueva justicia que se ha dado llamar la justicia transicional y que se vale de mecanismos, ¿no? Como por ejemplo, tribunales ad hoc, comisiones de la verdad hoc, o comisiones de la investigación. Para promover recherche, conocimientos sobre pouvoir esos produire des connaissances Entonces, sur les crimes qui ont été commis. Donc, no, à partir de ce moment-là,
les années 2000,
los años 90 han sido, on peut dire, on peut dire que les années 90, ce discours des droits humains, les pratiques sur les droits humains, se sont développées au niveau international, par exemple, si on considère d'autres contextes.
El conflicto de Bosnia y el conflicto de Rwanda que generan los Rwanda, dos tribunales ad hoc
où on a des tribunaux ad hoc qui se sont créés después de Nuremberg a mediados de los años 90. Tenemos en 1996 la creación de la Comisión de la Verdad Pionera de Sudáfrica.
Pour l'Afrique du Sud.
Y por otra parte tenemos el desarrollo de la justicia, del principio de justicia universal dentro del derecho internacional. ¿Qué quiere decir esto? Este es la herramienta por la cual los estados pueden juzgar otros estados de manera extraterritorial,
de forma extraterritorial.
Es importante porque en 1998, en España mismamente, es España, justamente a través de una acción del juez Gerson,
la que,
a través del principio de justicia universal,
grâce au principe de justice universal, on peut demander l'extradition de Pinochet
a Chile y promueve su juicio en el país, ¿no? Entonces, esto es algo que tiene una repercusión profunda dentro de algunos justicia. Colectivos
et donc,
en España,
porque
ya se viene hablando
en,
¿no? español, del reconocimiento de las víctimas, pero hay como un momento de reflexión en el que se dice,
on dit,
estamos promoviendo estos derechos en otros países, estamos promoviendo la lucha contra pays, la impunidad en otros países, pero no estamos aplicando a la cuestión de los desaparecidos. Pour
Entonces,
nous, disparu. Que
et donc, c'est
¿no?
quelque chose qui est déjà dans l'environnement espagnol. Donc,
ce discours d'Emilio Silva est lié,
ligado,
no?
est lié justement à ce fondement qui est en train de se développer.
Entonces, a partir de esta primera exhumación,
à partir de cette première exhumation,
se genera, esta primera exhumación tiene un impacto sin precedentes, ¿no? En España,
sans précédent en Espagne.
Por una parte, es una exhumación muy mediática, y por otra parte, este artículo, ¿no? que ha escrito Emilio, genera muchísimo interés por parte de diferentes familias de segunda generación,
très suivi par les familles de deuxième génération, troisième et quatrième génération
de disparus,
qui,
no?
qui veulent chercher leurs membres de la famille qui ont été disparus.
Y que se ha utilizado también, ¿no? Para movilizar la lucha por la
reivindicación,
¿no? Del movimiento de la memoria histórica.
Pour le mouvement de
Entonces, a raíz de esta exhumación en Priaganza, se crea la primera asociación nacional
que ha sido creada por la recuperación
de la memoria histórica, que estará liderada por Emilio y por otro historiador que se llama Santiago Díaz. Et y a raíz de esta otra se empiezan a generar muchas otras
et puis d'autres associations qui se sont créées au niveau régional.
En el 2002 se crea otra asociación nacional
association
que se llama
qui
el Foro por la Memoria, que más tarde se convertirá
mémoire,
en la Federación Nacional de Foros por la Fédération Nationale. Que tiene un carácter diferente
à l'association de Emilio Silva.
Là,
on voit comment les mouvements de la mémoire historique se diversifient.
Esta última, mientras
l'association de Emilio est une
association pour la récupération de la mémoire historique, pone l'emphase en la récupération
se centre sur la récupération des restes humains, tandis que
la
Fédération,
le
Forum pour la Mémoire, se centre sur l'histoire politique de ces personnes qui sont mortes pour leurs idéaux. Donc il y a une diversification des intentions.
Aun así,
Dentro del movimiento hay unas reivindicaciones
generales,
¿no?
que se ha dado
de manera muy intermitente y muy complejo.
Cela a été fait de façon intermittente et complexe, mais on pourra en parler
La nulidad de los juicios y las sentencias franquistas,
la nullité des décisions qui avaient été prises par le régime franquiste,
à finales de la guerra y a principios de la dictadura,
ces décisions, ces jugements du régime franquiste ont été annulés. Parce que c'était des jugements du Conseil de guerre. Il y a eu un changement des rues
et des nomenclatures
et de ces monuments qui font référence au régime franquiste.
La déclassification de documents,
et je me centre beaucoup sur ces documents qui ont été déclassés, donc déclassifiés,
d'archives officielles et de fondations privées,
comme la Fondation Francisco Franco, qui a été déclassée et qui a des informations officielles et qui continue jusqu'à aujourd'hui encore à être financée par l'État.
Et parmi les collectifs, bon,
il y a toute une trajectoire judiciaire qui s'est développée en Espagne autour des crimes franquistes.
La demanda del fin de la impunidad, ¿no? A través de los juicios de los responsables que todavía siguen vivos.
D'arrêt d'en finir
avec l'impunité
de ces responsables qui étaient là pendant la dictature et pendant la période de la transition.
J'aimerais aussi concentrer sur la question de l'abandon de part de l'État. A estos colectivos en los últimos 20 años, ¿no? Entonces ha habido diferentes momentos con diferentes intensidades políticas, sociales,
y donde ha habido más ventajas y desventajas, y ha habido certaines fois plus d'avantages, moins d'avantages pour les collectifs.
Algunos avances en materia de
Il y a eu quelques avancements par rapport à la connaissance.
Realmente, bueno, todos los que estudiamos el tema somos muy escépticos.
Bon,
¿no?
Nous sommes un peu sceptiques, nous qui sommes un peu.
Llamarlo un avance, ¿no? Pero des spécialistes de la question par rapport à la connaissance.
Mais il y a eu une commission constitutionnelle du Parlement sous la présidence de Aznar.
Reconocía de manera simbólica las víctimas del franquisme. Il y a eu une reconnaissance
des victimes du franquisme. Et il parlait des victimes. Du franquisme, il parlait vraiment de franquisme,
de forme publique et officielle, et
il condamnait tout régime totalitaire.
Sin embargo,
en même temps, dans toutes les propositions de loi qui ont été faites, le Parti Populaire s'abstient toujours. Il s'abstient, ou en tout cas, il n'était pas d'accord.
No será hasta 2004
C'est
cuando un nuevo 2004, gobierno socialista implementa nuevas medidas, ¿no? Que por primera vez
presenta de nouvelles lois qui essaie de reconnaître
estas reclamaciones, ¿no? Les demandes de la part de la société. Entonces, en el 2004, le gouvernement socialiste de Zapatero crea
une commission interministérielle pour faire de la recherche.
De lo que le ha acontecido a las víctimas del franquismo.
Sur les victimes du franquisme.
Y sus iniciativas culminan con la ley de memoria histórica de 2007,
la loi de 2016
que,
de la memoria
si bien contempla, es la primera ley reparatoria,
la première
por así
loi
decirlo,
qu'on peut de
que reconoce
et qui reconnaît
a las víctimas del franquismo y que habla por primera
franquisme
vez
et qui parle pour la
en un texto
fois,
oficial de la dictadura a nivel estatal. Ahora habría también que...
nationale.
Il
faudrait voir si en fait cela a été inclus dans les lois de jurisprudence régionale. En tout cas, c'est la première fois qu'on utilise cette terminologie et cela est significatif.
Mais cette
loi a été reconnue comme insuffisante par les collectifs.
Plus tard,
avec l'arrivée en 2011 du gouvernement de Rajoy et de nouveau de la droite, du Parti Populaire, la loi est complètement démantelée. C'est-à-dire toutes les dispositions. Tous les avantages qui avaient été proposés par le gouvernement socialiste ont été mis de côté.
Esto, ¿no? Le valió a España la crítica del relator
Et il y a eu la critique du rapporteur de l'ONU, de Pablo de Greff, relever la situation d'abandon
de alguna manera pone el dedo en lo que ha sido problemático en cuestión de
par rapport à la question de la négligence de l'État.
En primer lugar está la insuficiencia de la ley, como ha été dénoncé par les collectifs,
mais à partir de 2011, il y a eu carrément une non-application de la loi.
La loi de Zapatero
n'a pas été appliquée.
Una vez, sobre todo en cuestión de fosas, una vez que la ley es aprobada,
une fois que la loi a été approuvée, cette loi de Zapatero est approuvée,
bon, la loi de Zapatero est
très ample, très vague, sur la manière d'agir dans les fosses. Il
n'y
a pas un établissement,
un comité que puede evaluar este tipo de proyectos,
une création d'un comité d'évaluation, mais aussi d'un côté, il y a une subvention
para poder desarrollar estas exhumaciones, pero que recaen, cuya responsabilidad recae
pour la,
en los colectivos mismos. Es decir, el Estado no se implica de ninguna manera
appartient au comité, c'est-à-dire l'État ne s'implique pas. L'État ne gère pas ces subventions, il ne gère pas l'organisation ni la recherche. Ils disent, nous avons voilà, cet argent, vous en occupez. Et cela est un peu problématique
parce que les projets d'exhumation sont des projets
très grands.
Unos procesos burocráticos y logísticos muy complejos que en muchos casos acaban siendo un laberinto por personas de avanzada edad que forman estos colectivos, ¿no? Entonces es como casi un modo de perversión, ¿no?
C'est un peu pervers.
Otro tipo de violencia, ¿no?
C'est une sorte de violence aussi,
por las que se les hace pasar. Por otra parte, el informe de Greff, ¿no?
Rapport de Greff,
también
Pablo
critica
Greff,
la imposibilidad de la justicia, de l'accès à la justicia o a la verdad en España,
a la vérité en España.
Que es aparente, ¿no? Pues en la imposibilidad de investigar estos crímenes a través de la vía judicial. No ha habido
difficulté
nunca
de pouvoir faire des recherches par la voie judiciaire. Il n'y a pas eu vraiment une recherche judiciaire. C'est-à-dire, oui, il y a eu des tentatives, mais pas une tentative qui soit arrivée au bout.
Par exemple, en 2008, comme vous le savez peut-être,
Garzón, le juge Baltasar Garzón, avait commencé
une recherche des crimes franquistes,
mais très vite il a été arrêté par l'Audiencia Nacional, par le Tribunal Nacional, pour prévarication, pour forfaiture.
Et il y a eu donc
une destitution du juge. Et puis en fait, il ne peut plus continuer. Il a été destitué depuis 11 ans. Il ne peut plus exercer son activité de juge.
Además, no, está también la querella establecida en 2010, no, una vez que pasa que ocurre querelle, el tema, el bloqueo que se le hace a Garzón.
Un blocage après Garzón,
muchos colectivos
Garzón,
acuden a Argentina para precisamente a través de ese principio de justicia
pour utiliser ce principe de justice universelle et voir si ils pouvaient par l'Argentine faire face aux crimes franquistes. L'Argentine est le seul pays qui a ouvert un procès judiciaire contre les crimes franquistes,
et peut-être on peut en parler après. Il y a eu aussi là des blocages,
différents types de blocages. Et c'est une autre manière d'empêcher le travail de la justice.
Le rapport de Greff, de Pablo de Greff et d'autres demandent l'annulation de la loi de l'amnistie.
Et le gouvernement d'État, non seulement à la droite, mais aussi à gauche,
le PSOE,
le Parti Socialiste n'a pas accepté cette annulation
de
l'abrogation parce que c'était un pilier fondamental de la transition, cette amnistie.
Et puis la question du traitement du patrimoine de la dictature,
par exemple. El Valle de los Caídos, ce monument,
ya en el 2011, en 2011
il y a eu un rapport sur le futur de El Valle de los Caídos, des recommandations de comment on déclassait ce monument.
Bueno, se hace de una manera,
mais cela a été fait.
El informe es un informe riguroso, se podría decir, pero la manera en la que políticamente ha gestionado, pues es dudoso porque no da lugar.
Du point de vue politique, parce que ça ne donne pas la possibilité de faire, d'entreprendre des actions. Donc Pablo de Greff demande de reprendre ce rapport sur ce monument,
qu'on
puisse exhumer le corps de Franco de ce monument pour qu'il aille ailleurs, dans un autre caveau.
Y para terminar, entonces, ante esta situación, ¿no?
Devant cette situation d'impunité qui existe en Espagne, selon ma recherche, ce que j'ai voulu transmettre, ce qui m'intéressait, c'est de savoir, comment, par quel procédé
ces exhumations, si la investigación ces recherches no viene por parte del Estado,
peuvent
se réaliser, si
l'État
n'est pas là,
si c'est les collectifs qui s'en occupent,
¿qué tipo de métodos, protocolos y relaciones sociales
quelle
están generando por fuera, ¿no?, de esa acción estatal? Para mí, yo creo que es algo muy interesante porque también
esto depende de la región. Bon, ça dépend des régions.
De todas maneras, quiero decir que este contexto de desamparo político ilegal que sí que ha creado
no presencia nacional,
no
presencia
de
Estado,
ha
développé
beaucoup
d'actions différentes, beaucoup de création de collectifs autogérés dans différentes parties de l'Espagne. Et cela a donné lieu à des modèles d'exhumation très particuliers.
Y esto es, tiene muchas puede tener muchas ventajas también a la hora de, bueno, pues de quizás establecer una política de memoria ahora que cuente con toda esa experiencia,
que
puisse
recueillir
toutes ces
expériences autogérées, indépendantes, qui sont déjà nombreuses. Et qui viennent de la
part
de la société
parte,
civile. Et cette décentralisation est aussi intéressante du point de vue sociologique et anthropologique,
car toda esta descentralización ha dado lugar
c'est
a otras iniciativas a nivel regional,
qui a permis de créer d'autres iniciatives au niveau
iniciativas de memoria,
local,
e incluso
des iniciatives
nuevas leyes,
de mémoire,
no,
et même des lois au niveau régional.
Mismo, y que acentúan la diversidad de respuestas institucionales y sociales que existen ante la impunidad en España.
Qui peuvent exister
entonces,
devant la impunité.
Este, por ejemplo, es uno de los casos en Extremadura,
exemple,
donde
en
ahora mismo se está gestando una ley de memoria histórica,
une nouvelle loi de mémoire
historique, complementar
qui voudrait
y también
être
un poco
une espèce de complément et même une critique
de la,
à la non-efficacité de l'État.
Pero también, por ejemplo, en el caso en Cataluña, donde desde 2007,
il y a Catalunya, Catalunya, en 2007, il y a
une institution qui implémente la politique de la mémoire et
applique une politique de mémoire et aussi une loi pour les fosses communes.
Entonces, bueno, lo dejo ahí.
Voilà.
Si queréis,
je m'arrête
le débate, yo puedo contar más
si
sobre las particularidades de
je peux vous donner tous les détails sur le bien fait.
Merci. Bravo. Bravo.